l'interview d'Alexis Guérin qui quitte AWT Greenway pour le GSC Blagnac Vélosport 31. Une interview magnéto avec Claire Bricon qui a rencontré Nicolas Lhotte. Et puis Steve Chenel pour parler encore une fois cyclocross, le programme,
sacré
programme de cette émission.
On va commencer. Oui, oui, Nico. Faudrait des bottes de caoutchouc pour pas toucher dans la gadoue. Est-ce qu'il y avait de la gadoue aujourd'hui là-bas à Mazamé ?
Et autour du studio, c'est brumeux. Hein, le brouillard ne s'est pas vraiment levé, alors qu'il y avait des cérémonies commémoratives un petit peu partout autour du studio. Mais y en a qui avaient des manches de cyclocross. C'était à Mazamé ? C'était quoi ? Cyclocross FFC juin aujourd'hui ?
Oui, c'était une épreuve du trophée organisée par l'UV Mazamé, à la personne de Thibaut Vassal et toute son équipe. Donc, exactement, c'est le lieu dit Fontalba et Gefonde. C'est sur... avant Mazamé, voilà. Un très beau parcours. Pour la petite info, ça sera le théâtre des prochains championnats Midi-Pyrénées, donc 2016-2017. Là, cette année, ça sera à Castres, début décembre, le 6 décembre. Donc voilà, toutes les catégories étaient représentées et récompensées aussi, puisqu'il y avait des écoles de vélo jusqu'aux féminines, les juniors, seniors, cadets, etc. Toutes les catégories représentées. Bon, les différents classements, vous les aurez sur les sites Comité Midi-Pyrénées, Villemur, etc.
Il y a une sensation, quelque chose de marquant, quelqu'un qu'on n'attendait pas, je sais pas.
Sensation, il y a des coureurs. Alors il y a des coureurs qui sont venus courir, certains cadets que je trouve que c'est un petit peu, ça fait beaucoup d'avoir couru le samedi et dimanche, de courir aujourd'hui, d'aller dimanche à Kenneuc, la deuxième manche de la Coupe de France. Et pour autant, des juniors qui justement ont fait l'impasse sur les courses de ce week-end, ils n'en ont fait qu'une, ils ne sont pas venus aujourd'hui justement pour préparer cette Coupe de France à Kenneuc. Donc je suis un peu surpris, quoi. Autant je peux comprendre et je peux dire, voilà, un adulte va préparer, il sait venir sur une course et se mettre moins à fond et peut-être se servir de préparation pour la Coupe de France dimanche, mais des jeunes qui courent comme ça deux fois par week-end, plus le mercredi, plus après la Coupe de France, je trouve que ça fait beaucoup.
Voilà. Ça fait beaucoup de personnes qui vont à la Coupe de France du côté de Midi-Pyrénées ?
Alors, beaucoup de personnes, sachant qu'il y a une sélection régionale, le comité Midi-Pyrénées va déplacer des coureurs cadets, cadettes de mémoire, et des juniors, et des féminines, non, pas de féminines. Après, il y a des coureurs qui peuvent aller, nous, on y monte, à titre individuel. D'accord. Voilà, donc il y a beaucoup de coureurs, la région sera représentée, peut-être pas chez les élites, et chez les espoirs, je pense pas non plus. Mais le reste des catégories, voilà, il y aura une bonne délégation de coureurs midi-pyrénéens, hein, qui auront, avec une sélection par leurs propres moyens, se rendent donc à Kenneuc ce week-end, puisque les courses vont démarrer dès le dimanche matin jusqu'aux élites en fin de journée. Voilà, donc un programme chargé. Donc bon, pour résumer un petit peu cette journée aujourd'hui à Aiguefonde, bon, victoire de Valentin Cognier, qui est très en forme en ce moment. A gagné dimanche à De Casseville. C'est un coureur qui est originaire de Chartres, au club de Chartres, mais qui habite à Pamiers, travaillant à Pamiers, court dans la région ici. Donc on a une confrontation avec un niveau assez élevé. Deuxième place pour Thibaut Vassal, la troisième pour Jérémy Loubeau.
Ce sont des garçons qu'on retrouve au
championnat Midi-Pyrénées. Alors il y a toujours des coureurs qui, je veux dire, qui ne courent pas pour l'instant, qui se cachent un petit peu, qui préparent et qui vont arriver le jour du championnat et faire le championnat. C'est la course du championnat comme on a pu voir par le passé. Donc voilà, mais enfin, tout ça pour dire qu'il y a un cam du niveau assez élevé, sachant qu'on est plus de 200-250 coureurs au départ, toutes catégories confondues. Aujourd'hui, il y avait la course des seniors et la course des masters, donc je fais partie. Donc il y a ces deux pelotons de, on va dire, 35-40 bonhommes. Donc ça fait presque 80 bonhommes sur un circuit, ça fait beaucoup de monde, quoi, hein. Sans compter les autres catégories. Puis il y avait beaucoup de jeunes aussi, des écoles de vélo très très représentées. Ça marche fort, ça, en Midi-Pyrénées, ces écoles de vélo, ça prend beaucoup. Et les coureurs, voilà, ça leur permet de découvrir une discipline peut-être qu'ils connaissaient pas, et de leur faire aimer et qui continue cette très très belle discipline. On a de très bons talents dans notre pays au niveau du vélo.
Alors on a compris, la Coupe de France, donc ça sera ce dimanche du côté de Kelnuck, la seconde manche, et dans les prochaines semaines, eh bien, il faudra se déplacer notamment du côté de Colomiers, également à la fin du mois à Boulogc, avec un cyclocross à deux pas de notre studio, on
en reparlera. Pour les gens qui ne vont pas à Kelnuck ce week-end, il y a quand même des cyclocross dans la région, il y aura celui de Montauban, le fameux Cours Foucault, organisé par l'USM Montauban.
La 30e édition, et puis donc, édition, voilà. Le 6 décembre, un jour de la Saint-Nicolas, bien sûr, le championnat Midi-Pyrénées de cyclocross. Ça sera à Castres.
Ça sera Castres, terre de cyclocross. Je veux dire que ça fait, je sais pas combien de fois qu'ils organisent le championnat Midi-Pyrénées, sans compter toutes les épreuves. Il y a un super circuit où la zone de bord de basse, il y a vraiment tout ce qu'il faut, tous les ingrédients sont là présents pour organiser un cyclocross. C'est un endroit qui est magnifique. Donc on aura ce qu'il faut et on va se régaler sur ce circuit. Mais avant ça, il va y avoir les épreuves de Coupe de France et d'autres cyclocross, bien sûr.
Allez, on va refermer ce chapitre actualité. C'était tout chaud, c'était cet après-midi, bien évidemment un petit peu partout, ceux qui ont participé au match de cyclocross. Et nous allons lancer un premier débat. Et oui, un débat avec nos amis du Vélo Club du Net, où vous pouvez désormais réagir. Julien, j'accueille Max, ça va. Bienvenue. Ah, on t'a coupé.
Je ne savais pas qu'il venait, Max.
De retour.
D'ailleurs, le parking est bien vide. Ça fait plaisir de pouvoir
Parking vide, c'est vrai que c'est.
Ça empêche pas le brouillard.
C'est un petit peu férié. Il n'y a qu'à Radio Vélo que je ne vous ai pas laissé de bonnes sorties. Ça tombe bien. Nous avons un débat à faire.
La séance est ouverte.
Et bien sûr, le débat qui anime le monde du sport depuis quelques jours, c'est bien sûr la sextape de Chris Froome que Wiggins lui a conseillé de payer une rançon. Ah non, ça c'était au foot. C'est vrai qu'on s'est trompé.
Il y en a des affaires comme ça aussi.
Il y en a aussi dans le vélo.
Petit
clin d'œil au pauvre débat foot entre Benzema et Valbuena. Quelle tristesse.
Bon, c'est n'importe quoi, même pas d'en parler.
Même pas, on n'en parle même pas de ce film d'ailleurs. On fait de la radio.
Et on parle de vélo.
Désormais,
cela ne nous regarde pas.
Un débat hebdomadaire qu'on va pouvoir préparer ensemble et avec vous les chers auditeurs avec le forum de Vélo Club du Net. C'est ça, Benjamin, tu vas lancer le débat là-bas pour Radio Vélo.
Et voilà, quand on aura décidé quel débat on fait après l'émission du mercredi, on postera...
Après l'apéritif du dimanche soir, voilà. Du coup.
Non, avant, parce que sinon c'est pas bon.
Ouais. On postera l'idée de débat sur véloclub.net et les forumeurs, qu'ils soient anciens ou nouveaux, pourront participer et donner leurs idées, leurs avis et leurs informations également par le biais de ce forum.
Voilà, donc n'hésitez pas, Benjamin veille au grain. Il a d'ailleurs noté les meilleures remarques qu'on va pouvoir partager. Et la question qu'on s'est posée cette semaine, c'est...
Pour commencer, c'est tout simplement pour faire le lien avec la semaine dernière où on parlait du palmarès des Français qui cette année n'avait pas vraiment évolué. C'est maintenant, après avoir parlé du passé, on est tourné vers l'avenir. Quels sont les Français, quel est le Français le plus prometteur dans tel ou tel domaine? On parle bien sûr de cyclisme.
Ouais, mais après, est-ce qu'il faut dire qu'un Français réussit sa saison? On en revient au même débat que la semaine dernière. Parce qu'il va avoir réussi un bon Tour de France ou parce qu'il va avoir marché sur les classiques? C'est là que...
Et en tout cas, il faut qu'il ait fait l'un des deux. Et il n'y en a pas beaucoup, quand même, qui arrivent à faire ça, Julien. Donc, c'est la question, quel est le Français le plus prometteur? Ça peut être quelqu'un qu'on a découvert, je pense, ces deux dernières années, ou un jeune qu'on a vu faire un petit coup d'éclat, ou qui n'est même pas encore pro. Et ça, c'était ça, un petit peu, l'idée de tester un petit peu les forumers, savoir un petit peu comment ils allaient percevoir la question, comment ils l'ont perçu, justement, Benjamin. Est-ce que c'était plutôt à nous sortir quelqu'un derrière les fagots, donc de seul la grammaire le connaît, ou est-ce qu'ils ont été chercher un Alaphilippe qui a fait des belles Ardennaises, par exemple?
Alors déjà, on peut voir que Thibaut Pinot, Romain Bardet, Nasser Bouhanni, Arnaud Démare n'ont quasiment pas été cités.
Voilà. Peut-être parce que ils ne sont plus dans la catégorie prometteur. Ils sont les meilleurs Français, ils le sont déjà.
Il y a même pour Démare, il y a un forumer, je crois que c'est Allo Broge, qui se demande déjà si Sarro et Manzin peuvent le passer l'an prochain.
Ouais, je suis quasiment sûr.
C'est intéressant.
Ouais. Ah ouais.
Ah, je suis sûr que Manzin, il est au cran au-dessus que Mono l'a vu gagner en course au soleil. Il a déjà gagné une cette année. Lorenzo Manzin, moi, je suis sûr qu'il va le taper sans problème.
Et Sarro a déjà montré aussi des choses assez intéressantes.
Mais je veux dire que je mettrais plus sur Lorenzo Manzin que Sarro quand même.
Ouais. Donc, en tout cas, du côté d'FDJ, ça devrait bouger pour les sprints.
Alors ensuite, il y a eu deux coureurs qui ont été très cités. C'est Julian Alaphilippe, forcément, avec ce qu'il a fait sur les Ardennaises.
La classique qu'il a fait.
La classique à Saint-Sébastien, l'Eneco Tour. Bon, ça aurait été un peu surprenant de ne pas le citer.
On l'attendait déjà un petit peu au résultat qu'il avait fait l'année dernière, mais pas aussi.
Ouais, pas autant.
Pas autant quand même.
S'il avait fait un top 10 à la Flèche Wallonne et à l'Égypte Estonienne, je crois qu'on aurait déjà été subjugué. Là, c'est exceptionnel, quoi. Il n'y avait qu'un Valverde pour le battre. Et ensuite, le deuxième coureur. C'est Pierre Latour, qui a, je crois que c'est Max qui en parlait une émission précédente, qui avait étonné tout le monde au bord de Balès. C'est vrai que partir d'entrée dès le pied du col et ensuite tenir avec Quintana et Contador et
ne lâcher. Il a fait une montée exceptionnelle.
Ouais, puisqu'il n'est lâché finalement que dans la descente. Et c'est pas un one shot, puisque également autour de Burgos, en Espagne, il a également fait, je crois, 3e ou 4e au classement général. Preuve que sur la saison, il peut se fixer plusieurs objectifs.
C'est vrai qu'à la Ronde de l'Isard, on l'avait vu aussi très bien briller.
Oui, ces dernières années.
La Ronde de l'Isard, c'est pas non plus tout plat. Il y a des fameux cols pyrénéens. Il a montré déjà de belles choses quoi, sur la Ronde de l'Isard.
Non, c'est l'un des coureurs qui est assurément à suivre. C'est sûr que Julien Alaphilippe, il fait presque partie des coureurs dont on est assez sûr de les retrouver l'année prochaine. Mais quel est le Français le plus prometteur? Ça peut être aussi le plus prometteur pour gagner quelque chose de grand.
Ouais. Alors d'ailleurs, il y a un coureur qui est cité également en plus de ces deux, mais on n'arrive pas trop à le classer dans une catégorie. C'est Alexis Gouvard. Alors quel est son profil pavé? Guimard parlait de grand tour. Alors sur le forum, c'est plus ou moins, on parle peut-être d'un palmarès à la James Voigt, peut-être même plus. Et je voudrais vous poser la question à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une catégorie dans laquelle on peut le fixer, ou justement c'est un coureur dont on n'a pas eu le profil depuis longtemps en France et dont on ne peut pas classer justement dans une case parce qu'il est un peu partout?
Max,
c'est dommage parce que moi j'ai le mégalo de l'équipe qui le connaît très très bien. Et bon, moi le peu que je connais de lui, je pense que c'est le genre de coureur la Sky le prendrait en marche, comme ils ont fait avec par exemple pas mal de coureurs pour les faire devenir grimpeurs des gagneurs de grands tours. Avec un coureur comme ça, avec le potentiel qu'il a, tu peux. Par contre aujourd'hui, il faut qu'il perde beaucoup de kilos pour devenir ce grimpeur qui sera au-dessus de tout, parce qu'il a quand même prouvé par le passé autour de l'avenir, il était maillot jaune, qui grimpait sur des courses amateurs où il y a des cols, il était devant. Donc non, il a un moteur énorme. Pour le classer, un sacré baroudeur, parce que quand il sera dans des échappées de 20 mecs, les mecs vont avoir peur de lui, parce qu'ils savent que s'il part seul, ils ne le reverront pas. Donc un gros baroudeur, mais je pense qu'il peut devenir, mais après ça dépendra que de lui, un possible vainqueur de Grand Tour. Mais ça, ça dépend de lui et d'une équipe qu'il prendra en charge. Maintenant, il est bien comme il est. Je pense qu'il a fait comprendre à G2R que s'il le laissait tranquille, il arrivait à faire des résultats comme cela. Dans une autre équipe, ça pourrait se passer peut-être autrement, peut-être qu'il n'y arriverait pas. Ça, c'est vraiment tout un système qu'il faut être, qui soit mis en place autour de lui.
Ça veut dire qu'un coureur a des capacités, mais c'est-à-dire qu'on peut le préparer justement à améliorer ses capacités, le diriger vers telle ou telle spécicité, du coup.
C'est ce qu'a fait les grosses équipes par le passé, les derniers vainqueurs Tour de France.
Souvent à l'étranger.
Ils ont été transformés alors que c'était des pistards ou alors des rouleurs, et puis
des sprinteurs sont venus des rouleurs, des grimpeurs.
Et tu peux faire de tout.
Ça se fait pas dans les équipes françaises.
Non, parce que c'est pas la politique du jour. C'est on prend le coureur comme il est d'entrée en amateur et puis on le fait aller jusqu'au plus haut niveau, on voit Pinot, etc. Mais peut-être qu'on va changer dans les années futures. Peut-être que ça va commencer. Parce qu'on voit que c'est possible. Moi, je vois rien que chez les amateurs. Là, je prends un grimpeur de Polony que j'ai vu il y a pas très longtemps, qui est quand même grimpeur. Il a toujours été super maigre. Aujourd'hui, il a changé complètement de physique. Aujourd'hui, ça va devenir un coureur de, ça va être un ligne droite, quoi. Ça va être un rouleur. Il va moins passer les bosses que comme il est passé avant. Par contre, il va garder ce potentiel là. Donc ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner. Donc chez les pros, c'est ce qui se passe aussi, mais ils font en sens inverse. Ils prennent un gros rouleur qui vont faire maigrir entre guillemets pour qu'il devienne un super grimpeur et qu'il garde ses capacités de rouleur. Donc là, le rapport poids-puissance et tout ça.
Alors Goujard, tu parles d'une transformation possible pour un grand tour. Mais pour un grand tour, c'est sûr que quand on a un coureur aussi comme je parle souvent des Français à l'étranger. Il y en a très peu maintenant des Français à l'étranger, mais il y en a un que je vais suivre très très attentivement, et surtout depuis les deux étapes qu'il avait gagnées à Vuelta, c'est Warren Barguil. Je me dis c'est pas forcément dans cette équipe Giant où il a le plus de possibilités pour progresser, parce qu'il n'y a pas grand monde pour l'aider dans ce registre-là. Mais il a la liberté, et j'imagine que pour l'an prochain, avec aussi les Jeux Olympiques de Rio, il va avoir une préparation un petit peu spéciale. Et j'espère qu'il pourrait être cette personne capable de briller sur des courses par étapes, peut-être, Guillaume.
Moi aussi, c'est vrai que je pensais à Warren Barguil. Il est assez discret. On n'en a pas trop entendu parler, mais je pense qu'effectivement, il y a un gros potentiel. Après, comme tu disais, effectivement, pour l'instant, l'équipe Giant, ils ne sont pas trop orientés sur sa préparation, peut-être sur certaines courses.
Peut-être que le départ de Kittel peut changer ça.
Voilà, et puis peut-être qu'il a l'avantage justement d'avoir plus de liberté et moins de pression au sein d'équipe. Ouais. Donc ça peut peut-être être
le souci qu'il peut y avoir pour lui, c'est Tom Dumoulin qui s'est révélé sur Grand Tour et qui pourrait
très peu cité Warren Barguil sur Top Form.
Il n'a pas du tout été cité une seule fois.
Comme quoi on est là quand même pour faire le boulot aussi. Hein.
Mais est-ce que c'est cette année qu'il a fait peut-être avec un peu une demi-teinte par rapport à l'an dernier.
Oui, c'était
moins médiatique. Il a eu quelques pépins physiques et c'est vrai que le début de saison, il n'a pas pu courir comme il voulait. Il est monté en puissance au Tour de Suisse. Il a fait une première semaine du Tour de France monstrueuse sur les pavés. Il était au même niveau que Lenny Bailly, les Froome, on le voyait en tête. Il roulait pour Degenkolb. Il faisait tout. Et puis, il y a eu cette chute à la Pierre-Saint-Martin. Une belle chute puisque moi, quand je l'ai vu tomber, je croyais qu'il allait abandonner. Il criait de douleur. Et ensuite, il a quand même tenu jusqu'aux Alpes où là, il a explosé. Et on est dans une optique aujourd'hui.
Il fait 14e du Tour de France quand même. Ouais, pour son
c'est pas
tour.
Mal, mais tu vois, on est dans une telle optique de jeune qui marche que 14e du Tour aujourd'hui. Warren Barguil, après avoir fait 7 ou 8e du La Vuelta et gagné 2 étapes en néo-pro, on se dit ouais, mais est-ce que c'est une déception et presque déjà on passe à quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose pour Florian Sénéchal. Il a 22 ans et il y en a sur le forum qui ont commencé à dire il va falloir qu'il commence à se réveiller. Enfin, à 22 ans, ce qu'il a fait par 10 ans en arrière, on n'avait pas ça.
Ça serait marrant d'écouter une émission d'il y a peut-être 2 ans qu'on avait fait ici à Radio Vélo, parce qu'on parle souvent des jeunes au monde du Tour, des choses comme ça. Et moi, je me rappelle qu'on fait à chaque fois, je dis attention, ça arrive. On avait Pino Bardet derrière. Là, on a mis du gros potentiel et c'est sûr que ça fait 3 ans, 3 à 4 ans. On fait depuis l'émission peut-être, on fait 3 ans qu'on le dit que ça va arriver et c'est sûr que là, on s'y approche. D'ici 2 ans, moi j'ai dit d'ici 2 ans, on y est. On va en avoir un qui va jouer vraiment, mais un jeune qui va sortir et qui sera vraiment en capacité de gagner le tour.
Mais regarde, on parlait la semaine dernière qu'il y en avait 2 sur le podium l'année dernière.
Oui, mais en râle parce qu'il manque quoi? Il manque le chrono, il manque toujours quelque chose. Ils n'ont pas cette. Un Barguil chez les amateurs, c'était aussi un gros rouleur. Pourtant, il n'a pas le même profil que Goujard. Donc, ils sont là. La tour aussi est là. Moi, je suis confiant, je suis sûr que ça va arriver. Ça forme bien derrière. Et là, après, ça dépend que du coureur aussi mentalement.
Et on a encore un champion du monde d'espoir en plus cette année. Pour les autres registres, quand même, avant de citer quelques autres noms en vrac, pour ceux qu'on connaît, bien sûr, l'un des coureurs français les plus prometteurs, c'est aussi Brian Coquart, qui a tout pour peut-être devenir l'un des plus grands sprinteurs français de tous les temps, n'ayons pas peur. Il a 10 ans de carrière devant lui, le garçon. Hein.
Ouais, puis il fait d'excellents résultats sur la piste pour l'instant, donc.
Quand même, on a envie de savoir s'il ne peut pas être un de ces sprinteurs qu'ont été Cavendish, non?
Peut-être pas Cavendish, mais excuse-moi, je t'ai coupé.
Jean-Patrick Nazon, tu vas pas me dire ça quand même.
Non, mais par contre, pour le maillot vert, c'est peut-être la meilleure chance française dans les années à venir, parce que vu son gabarit, c'est l'un de ceux qui peut le plus s'économiser en montagne. Bon, Nasser Bouhanni fait quelques bonnes performances sur des parcours de moyenne montagne, mais dès que c'est la haute montagne, c'est pas autant que Brian Coquart. J'ai discuté avec des gars avec qui je roulais également ce matin. Et oui, Brian Coquart, c'est le sprinter français des trois, donc Desmar, Bouhanni et Coquart,
qui semble avoir la plus grosse marge,
qui donne la plus envie, quoi, parce que vu son profil, vu sa taille et son poids, on peut se dire qu'il peut être un sprinter et pas que.
Bon, d'autres choses que tu voulais rajouter, notamment sur les réactions qu'il y a eu donc sur Vélo Club du Net par rapport à ce débat, qui est le Français le plus prometteur?
Oui, ben alors ça c'est un peu spécifique à Vélo Club du Net. C'est on va pas parler des pros, on va aller chercher chez les espoirs, voire même chez les juniors, les coureurs. Donc par exemple, est-ce que vous connaissez Adrien Costa?
Non,
c'est apparemment, alors c'est
un pupille.
C'est un junior qui est aux États-Unis, qui a la nationalité franco-américaine. Donc c'est le spécialiste de VéloClub.net qui allait sortir ce nom.
C'est son fils.
Non. Il est né de parents français, mais en Californie. Pour le moment, il court sous les couleurs américaines. Et il serait apparemment, et de très loin, le meilleur grimpeur junior du monde. Il a également été vice-champion du monde contre la montre.
Bon, Max, tu fais un test son nom pour l'équipe. Là.
Et apparemment, il est également il aurait un profil qui irait plus avec les courses pro qu'avec les courses juniors. Donc, puisqu'il y a certains juniors, on sait que dès que ça va passer à un échelon supérieur, ça risque de coincer. Là, ça serait vraiment quelqu'un...
Ça me fait penser quand même à l'entraîneur, le jeu de foot, quand tu sélectionnais un Brésilien qui avait 14 ans. Je ne sais pas, faut voir.
Mais tu sais que Véloclub.net n'est pas novice dans ça, puisqu'en 2006-2007...
Ceux qui ont révélé Armstrong ?
Attends, non. Tu vas voir, c'est quand même une belle histoire. Il y avait un jeune Italien qui s'appelle Vincenzo Nibali qui se commence à se révéler. Et il y a quelqu'un qui a sorti cette année-là, 2014, il va gagner. Donc, pas 2013 ou 2015, 2014. Et ça, c'est...
Qui n'a pas annoncé quelque chose en soirée, hein.
Sinon, pour parler des amateurs français, de noms qui ressortent, c'est Guillaume Martin, qui a quand même mis beaucoup de temps à trouver une équipe, malgré le palmarès qu'il a eu.
Une équipe intéressante dont on te parlera dans les prochaines semaines, dans Radio Vélo.
Et également Aurélien Paré-Peintre.
Qu'on a vu à la Ronde de l'Isard.
Très belle Ronde de l'Isard.
Bah, les deux.
Bon, ben c'est productif, hein. Il y a de quoi faire le marché là pour les prochaines années. Tu voulais rajouter un nom, Max? Non.
Non, mais moi c'est que j'étais surpris par rapport à l'équipe que j'ai créée. J'ai quand même eu trois CV que j'ai reçus.
Trois personnes postulées.
Ouais, voilà. Je cherchais le mot postulation. J'ai inventé un nouveau.
T'as mis une dentée, hein.
J'ai nommé. Et du coup, j'ai reçu quand même un Hollandais, un Belge et l'autre, je ne le dirai pas parce que ça devrait peut-être arriver.
D'accord. C'est donc les gens postulent. C'est vrai, ça confirme que c'est compliqué de trouver une structure.
Des étrangers qui sont vraiment intéressés par la France quand même. Donc ça prouve quand même que le vélo aussi, il n'y a pas photo.
Pour courir en France, en tout cas.
Pour apprendre à courir, quand il est à cet âge-là, ils veulent apprendre à courir ici.
Un Kazakh peut-être, non?
On verra ça dans quelques jours.
Messieurs, on fait la coupure pub, il est
donc,
l'heure.
Kashechkin reviendrait dans le photo d'après les infos que je viens d'avoir, du coup. Je salue André Kashechkin, qui est un fidèle auditeur de Radio Vélo. Coupure, petite respiration, c'est ça, là, il faut envoyer tout de suite, et puis on revient tout de suite après avec.
C'est pas radio. Pop. Rock. Sport. Cyclisme, décryptage, matos, c'est l'émission pour les amateurs de vélo. À retrouver en podcast sur cetaradio.fr et le mercredi en direct à 19h. Radio Vélo, l'émission 100% cyclisme uniquement sur cetaradio.
L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint, quand on sent l'air au travers du maillot. En roue libre et bien sûr sans les freins, Carla retourne, Carla.
De retour dans Radio Vélo ensemble jusqu'à 20h en ce mercredi 11
jusqu'à
novembre.
Jusqu'à 20h.
Oui, jusqu'à 20h, ça te va, non? Ça fait.
C'est grave, nickel.
Hein,
après, il faut la manger.
Il faut bien que tu ailles souffler un peu. Après notre petit débat qui nous a lancé pour l'hiver, je crois, et avant de recevoir Alexis Guérin et Steve Chenel, c'est l'heure de la chronique Matos avec notre ami de Matos Vélo, Guillaume. Guillaume,
il n'y a pas de jingle.
Non, c'est Rabi maintenant, tu vois. Ah ben, je vais lui repréparer les petites fiches qui vont bien. On va s'y remettre.
Si vous aviez passé la journée que j'ai passée.
Et oui. Non, comme quoi, des fois, on est mieux au boulot. Ouais. Guillaume, il y a eu quelques infos quand même cette semaine là au niveau du matos, des révélations, des grosses infos, des petites infos.
Ici, il y a eu une grosse info qui est parue hier. D'ailleurs, merci Nicolas, c'est toi qui me l'as transmise en premier. Time qui revient chez les professionnels. Il y a beaucoup de gens qui étaient un peu déçus que les cadres Time, bien français, n'étaient plus dans le peloton professionnel depuis l'équipe Source de la Seine. Ils reviennent avec l'équipe HP-BTP Aubert 93. Donc c'est officiel depuis hier. Donc ils rouleront avec le dernier Skylon, avec fourche active. Ils seront équipés en SRAM Red, jantes Mavic, etc. Donc voilà, mais la grosse nouveauté, effectivement, c'est que Time revient enfin dans le peloton professionnel.
C'est forcément une bonne nouvelle d'avoir une entreprise française qui revient, Guillaume.
Voilà, il y a beaucoup de gens qui attendaient beaucoup le pressenter chez Direct Energy. Sauf que Direct Energy, c'est quand même une très grosse équipe et équiper une équipe comme ça, c'est très très cher. Donc je pense que Time, il commence plutôt par Aubert 93 qui doit coûter quand même nettement moins cher. Mais voilà, ça les remet un peu sur le devant de la scène. Je pense que ça, au niveau notoriété, ça peut être que bon.
Ouais, Benjamin, tu as suivi ces dernières années aussi.
J'ai vu le cadre, j'ai trouvé le vélo très sympa, très joli et sans doute très cher.
Ouais, ils ont toujours fait du bon matériel, hein, en tant que vélociste ou que équipementier, pédales, chaussures, casques, lunettes, ils ont toujours été à la pointe, ouais, c'est vrai. Ouais.
Hein. Donc, enfin,
les premiers à avoir sorti des pédales automatiques avec la liberté angulaire, c'est bien Time qui les a créés quand même.
Et après, Aubert, qui avec un nouveau co-sponsor maintenant, Manan Time, c'est comme si c'était un nouveau départ, quoi.
Oui, oui.
Il semble ambitieux.
Ben après avoir quand même eu le champion de France qui a récupéré son maillot, donc avec le maillot d'Aubert, hein, Steven Tronet, qui ne sera plus avec eux cette année, c'est quand même une très très belle année 2015 pour cette équipe. Ouais.
D'ailleurs, Aubert qui roulait sur les vélos BH jusqu'à présent, et donc BH qui équipe maintenant Direct Energy ex Europe Car.
D'accord. Qui évolue aussi du coup, BH. C'est...
Voilà, qui évolue aussi. Et peut-être qu'ils ont voulu avoir un peu plus de notoriété que ce qu'ils avaient chez Aubert. Tout à l'heure, on parlait de Vincenzo Nibali à Specialized qui sort une série limitée. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais sur le Tour de France, il avait un vélo vraiment avec un design très spécifique. Specialized sort un vélo en série limitée, ce même vélo. À 3 600 €, c'est toujours...
pas cher.
Ouais, voilà. Mais c'est les tarifs pour des cadres de corps professionnels. Ouais. C'est ce qui se fait chez toutes les marques. Donc voilà, on pourra acquérir ce vélo. Alors, je sais pas s'il y a une quantité vraiment limitée. J'ai pas d'infos sur le nombre de cadres qu'il y a dans le monde. Mais voilà, s'il y en a qui le veulent, je pense qu'il faut le réserver avant Noël.
Bon. À vos cartes de crédit.
Voilà. Ou sinon, transmettez l'info à votre conjoint ou conjointe.
Ou Père Noël, oui.
Voilà. Ouais, conjoint, je pense que ça marche pas.
C'est plus efficace.
Ou à Radio Vélo, c'est des sous.
Oui, on va en faire gagner un pour Noël, Julien. Tu iras l'acheter à la boutique, tu me l'avances.
Ensuite, on m'a beaucoup parlé, en fait, j'en avais parlé il y a quelques mois, il y a PowerTap qui sortait des plateaux capteurs de puissance à 700 € environ. Je vous invite à aller voir le site d'Alban Lorenzini. C'est quelqu'un qui a fait ses études avec Julien Pinault, donc de la Française des Jeux, à la même université. Il a testé les plateaux. Son site, c'est cycleforme.fr. Et très très bon retour. Donc il va encore continuer les tests quand même quelques mois. Mais très bon retour, très bonne précision. Donc apparemment, un très bon produit de PowerTap. Voilà, un capteur de puissance à seulement 700 € qui est aussi fiable qu'une roue PowerTap. Donc,
vous connaissez CRM?
C'est un peu moins précis qu'un CRM. De toute façon, il n'y a rien d'aussi précis apparemment qu'un CRM.
Mais quand tu parles de précision, c'est quoi? C'est de quel ordre de pourcentage? On sait à peu près.
Un CRM, c'est précis, on va dire, à plus ou moins 1%. Là, ça serait entre 2 et 2,5%. Donc, de toute façon.
Ouais, pour le prix, pour la différence de prix.
De toute façon, il y a SRM qui a 1%, tous les autres, ils sont au moins 2% de précision. Donc,
D'accord. Et la disponibilité de ces.
C'est disponible déjà de suite. Alors après, il y a une telle demande qu'il y a un petit délai, on va dire. Le gros avantage, c'est que ça se monte sur tous les pédaliers 5 branches. Donc pour l'instant, il n'y a que 5 branches de disponibles. Je pense qu'ils vont sortir le 4 branches l'année prochaine. Mais voilà, ça se monte. Il n'y a pas besoin d'un réglage spécifique ou autre, si on a un pédalier 5 branches.
C'est un plateau que...
C'est deux plateaux qui sont joints. Donc, il y a 53-39, 50-36 et 52-36, d'ailleurs, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il n'y a que ces couples-là pour l'instant. Mais voilà, on remplace en fait ces plateaux qu'on a habituellement et on monte ça à la place.
D'accord.
Donc, après, il suffit d'avoir un compteur compatible en plus. Et on aurait apparemment un capteur de puissance pas trop cher, parce que 700 €, ça fait pas trop cher pour un capteur de puissance, c'est aussi précis que ce qui se fait de mieux sur le marché. Donc,
parce que la valeur d'une roue, enfin d'un moyeu PowerTap,
c'est à peu près les mêmes, on va dire que le tarif est pas très éloigné, sauf que voilà, une roue c'est un peu plus contraignant. Certains n'aiment pas trop, parce que si on veut opter pour une roue carbone haute de temps en temps ou autre, ou ça oblige à avoir plusieurs moyeux PowerTap. Là, l'avantage, c'est que c'est dans le pédalier, c'est fixe, et après, on met les roues qu'on veut. Si on crève, on perd pas le capteur de puissance. C'est un peu la contrainte qu'il y a sur une roue PowerTap. Donc voilà, à suivre. Je vous invite à aller voir son test, qui est très, très documenté et très précis, surtout par rapport à ce qui se fait d'habitude.
Bon, mais très bien. Merci, Guillaume, tu as une autre brève?
Rapidement. Allez. David Millard, qui a pris sa retraite et qui, en collaboration avec Castelli, a lancé une marque de, enfin, une ligne de vêtements qu'il a appelé Chapter 3, donc chapitre 3. Pour lui, c'est son. C'est parce que pour lui, c'est le troisième chapitre de sa vie.
Premier chapitre, c'est celui qui avant a été puni.
Voilà. Deuxième chapitre, c'est sa résurrection après, après sa sanction.
Et là, viol.
Là, voilà, avec la retraite, il a lancé une ligne de vêtements.
Ça ne m'étonne pas tant que ça.
Non, parce qu'il est très, très attaché à tout ce qui est mode, etc. Donc, c'est des vêtements, comme il dit, c'est pas super technique, c'est quand même très technique, mais il est plus porté sur un joli truc. Il dit, voilà, si on veut s'arrêter boire le café pendant sa sortie de vélo, avoir
la cool. Classe, quand même.
Donc, voilà,
cool.
c'est assez cher. Ouais. On va dire 240 euros un cuissard, 240 euros un maillot, c'est, voilà, c'est du très haut de gamme, mais ouais. Bon.
C'est pour les gens rester,
ça reste des goûts anglais aussi, donc tu risques d'être repéré au café, Julien, je pense.
Ouais, après ça plaira pas à tout le monde, mais bon, il y en a certains
se reconvertir de toute façon.
J'en ai beaucoup sur le forum, sur le site, qui m'ont dit c'est j'aime pas, mais bon après
des fois, goûts des couleurs.
Voilà, c'est atypique, ça plaît pas à tout le monde, mais bon, il y en a un qui ça plaira. Donc voilà, si vous voulez rouler un peu différent et classe, c'est une collection qui sort à la fin de l'année. Si j'avais une dernière petite info, je sais pas si vous avez vu l'info, Colnago qui s'est fait un peu taper sur les doigts, il les a fait un tweet il y a deux semaines je crois, un tweet un peu sexiste, donc Colnago qui s'est excusé en ligne sur sa page Facebook, s'ils avaient utilisé une femme...
En position
en position qu'il faut pas montrer quoi.
Voilà, donc ils se sont un peu fait se taper sur les doigts. Voilà, les réseaux sociaux, ça va très vite et des gens maintenant n'hésitent pas à critiquer ce genre de mise en avant de la femme. Donc j'ai trouvé ça sympa, mais voilà, Facebook, Colnago s'est excusé. Donc voilà, mais à coup pas pour eux.
Au moins on parle d'eux.
Oui, est-ce que c'était pas le but, je sais pas.
Voilà. Des fois, ce sont des trucs comme ça. Ça permet aussi de parler de la marque au passage.
Colnago, d'ailleurs, qui n'est plus pour l'instant
le peloton
professionnel. On sait pas s'ils seront dans une équipe. Donc à suivre prochainement.
Merci Guillaume pour cette chronique matos et on enchaîne avec notre premier invité du soir. Il était en train de nous écouter, me dit-il. Alexis Guérin est avec nous. Alexis, est-ce que tu nous entends ?
Oui, ça va, je vous entends très bien.
Bienvenue en direct dans Radio Vélo et merci de prendre quelques minutes pour donner de tes nouvelles. Pendant qu'il y en a qui jouent à PlayStation chez toi, c'est ça ?
Non, la Xbox, c'est Lucas Destin.
Bon, et on salue les autres cyclistes qui sont avec toi. On avait envie de prendre de tes nouvelles parce qu'il y a eu cette semaine cette annonce comme quoi on allait te revoir en Intermidi pyrénéenne, notamment avec le maillot du GSC Blagnac Vélo Sport 31. C'est bien ça, Alexis ?
Oui, j'ai eu David de SQT au téléphone il y a quelques semaines et je lui ai assuré que si je descendais chez les amateurs... et que j'avais pas de contrat avant le 31 décembre, je serai à Blagnac l'an prochain en amateur.
D'accord, donc il y avait bien évidemment le souhait d'une évolution chez les professionnels. Tu as donc déjà fait ce choix, mais ça veut dire que c'est définitif ou jusqu'à la fin de l'année, il peut y avoir une proposition ? Comment ça se passe dans ta tête ?
Ah, il peut y avoir une proposition encore, mais moi personnellement, j'ai reçu le calendrier de Blagnac, je me suis déjà fixé des objectifs en rapport avec le calendrier de Blagnac. Redescendre, c'est pas la chose qui me dérange parce que je suis jeune encore. C'est peut-être, je dirais presque un mal pour un bien. Je vais redescendre, retravailler les bases et remonter plus fort.
Donc deux années chez ETIX, la réserve de la Grande Quickstep et puis la AWT Greenway. Comment il n'y avait pas possibilité de continuer une année de plus dans ce genre de structure du coup ?
Non, enfin j'aurais peut-être pu continuer un an de plus, mais c'est une équipe développement, ils ont un calendrier axé sur les courses espoir et étant plus espoir, après le calendrier est assez faible pour les coureurs qui sont pas espoir, donc on a besoin de courir pour progresser et pouvoir travailler et je travaillais dans cette équipe plus la montagne que le chrono et je veux pas perdre le chrono donc. Je préfère changer, revenir un an et retravailler le chrono et avoir les résultats que je dois avoir en chrono.
Alors justement, cette année 2015, tu nous as donné une partie de la réponse avec peut-être des courses pas toujours adaptées à ton profil. Qu'est-ce que tu en retiens de cette année 2015 ?
Ça a été une année qui avait commencé difficilement, enfin commencé bien en Croatie. Je suis rentré de la Croatie, ça a été compliqué parce que j'ai eu la grippe. Et j'ai enchaîné de la grippe avec une infection au niveau du sang, ce qui m'a mis 4 mois complètement à plat. Et après ça, mi-juin, j'ai commencé à bien récupérer. Début juillet, le moteur commençait à repartir droit. Et 2 semaines après, j'ai gagné ma première course. Et la fin de saison, ça a été une superbe fin de saison. Une superbe fin de saison.
Julien ?
Début de saison compliqué, fin de saison extraordinaire.
Salut Alexis, c'est Julien. Qu'est-ce que tu vas... Bon, Nico t'a posé la question, mais... Moi, je vais parler plus.
Mal, il a mal posé la question.
Non, c'est pas ça, mais parce qu'on apprend toujours. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas retenir au niveau entraînement, au niveau préparation, au niveau des choses que tu vas mettre en application? Comme tu dis, tu vas revenir plus fort. C'est certain que des cas comme ça, on se remet en question. On dit voilà, je suis passé à côté. Peut-être pas. Je vais retravailler. Je vais faire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu vas mettre en application, que tu vas à changer?
Bah, je pense qu'il y a des choses que j'ai oubliées en y allant et il y a des choses que j'ai apprises. J'ai appris à bosser la montagne, j'ai appris à bosser l'endurance, j'ai appris à lancer des sprints, j'ai appris plein de choses. C'est pas 2 années perdues, c'est 2 années où j'ai fait un gros apprentissage. Maintenant, il y a des choses qu'il faut que j'en travaille et qu'il faut que je perfectionne pour pouvoir accéder au plus haut niveau et être à mon top niveau, quoi.
Tu avais un entraîneur pendant ces temps-là ou tu étais un autonome?
J'avais un entraîneur différent jusqu'à juin l'année passée. J'avais un entraîneur de l'équipe qui était là-bas. Et je pense que c'était pas une façon de travailler qui me convenait. Et j'ai passé la fin de saison à m'entraîner seul avec les conseils que j'avais déjà eu auparavant par mon ancien préparateur physique et par Eric Vermeulen. Et ça a bien fonctionné. Du coup, pour la saison prochaine, je reviendrai avec mon ancien préparateur physique, Gaël Le Guédic.
Peut-être Max, une question pour Alexis.
Ouais, salut Alexis. 2 petites questions. La première, comme tu dis, tu as fait une bonne fin de saison, c'est vrai. Donc du coup, est-ce que même si les effectifs au niveau des pros commencent à être clôturés, est-ce que tu as quand même 2-3 petites touches, que ce soit en France ou autre part, quand même en contact? Ou est-ce que tu as rien du tout? Et si jamais tu as rien du tout, par rapport à Blagnac, comment tu penses préparer ton année? Est-ce que tu vas aller là-bas, vivre là-bas pour être sur place, ou est-ce que tu vas rester chez toi?
J'avais quelques petites touches et il y avait 2 équipes qui m'ont demandé si ça me dérangeait pas de redescendre un an afin de montrer en France ce que je valais pour remonter l'année prochaine. J'ai répondu que ça me dérangeait pas du tout, au contraire, c'est un challenge qui me plaît bien. C'est peut-être dangereux comme challenge, mais ça me plaît bien de redescendre, prouver ce que je veux en France et puis repasser l'échelon supérieur. Donc ouais, il y a des petites touches. Et puis l'an prochain, au niveau de Blagnac, non, je vais rester habiter à Bordeaux, puisqu'on est 6 Bordelais à Blagnac, dans l'effectif 2016. Et puis au niveau objectif, je me suis déjà fixé la première Coupe de France, tour de... Après, je peux pas trop citer le calendrier, parce qu'ils l'ont pas sorti officiellement, mais jusqu'au mois de juin, j'ai à peu près 8 objectifs.
Ouais, donc c'est vrai que t'as l'air quand même déjà bien réfléchi par rapport à la question. Donc je pense que comme tu dis, de descendre pour rebondir, ça, en sachant que la caisse que t'as pris à ce niveau-là, c'est quand même assez intéressant.
C'est à moi de montrer que je suis pas le Alexis tout fou qu'il y a eu par les années précédentes en France. C'est à moi de montrer que j'ai été intelligent et j'ai appris à assimiler de bonnes choses et que je sais les mettre sur le terrain.
Et justement, par rapport à ces objectifs de 2016, sur quelle course, du coup, on peut te retrouver avec le couteau entre les dents?
Déjà, là, je vais commencer à l'essor. J'ai fait un petit pari, comme quoi, je dirais pas laquelle, parce que sinon, je vais être attendu, mais sur une de l'essor, j'ai parié que je gagnerais, donc j'ai intérêt à gagner. Et après, il y aura bien sûr la première Coupe de France... Dex, pas un parcours forcément pour moi, mais le challenge est intéressant. Après, il y aura le Tour du Lot-et-Garonne avec des ribbings, il me semble. Il y aura Bruxelles, toutes les Coupes de France, quoi, en gros. J'espère que Blagnac sera au Tour de Bretagne et je vise le Tour de Bretagne. Il y aura le Savoie et les France Chrono. Bon. Après, il y en a quelques autres, mais je ne sais pas si tu peux les annoncer, parce que le calendrier, c'était un calendrier prévisionnel. Donc,
Non, on ne veut pas te créer de soucis, Alexis.
Pas de polémique.
Pas de polémique.
Non.
Bon, ben en tout cas, on te remercie d'être passé dans Radio Vélo. Je crois qu'on a un peu mieux compris où il se trouvait, Alexis, qu'on suit depuis sa ronde de l'Isard, où il avait gagné l'étape en 2012, notamment. Hein. C'est ça, Alexis?
Oui, c'était Karl Abeille.
Ouais, Karl Abeille.
Pierre-Roger Latour.
Voilà, depuis sur la carte, on connaît Karl Abeille. Nous, d'ailleurs, on est retourné l'année d'après. Mais c'est vrai que c'est des images plein la tête, comme si on était avec toi ce jour-là, tu vois. Bon, ben, on te remercie en tout cas, et puis on te dit à très bientôt dans Radio Vélo. On prendra de tes nouvelles.
Avec plaisir, à très vite.
Merci Alexis. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup, merci à tous.
Merci, au revoir. Donc c'était Alexis Guérin en direct dans Radio Vélo. On va écouter une chronique dans quelques instants. C'est prêt, Julien, c'est sous le coude. On reste dans le milieu des amateurs avec celui qui était justement le speaker à l'époque de Karl Abeille sur la Ronde de l'Isard, Nicolas Lhotte.
On se retrouve dans un café à Paris avec Nicolas Lhotte qu'on présente plus hein, sur Radio Vélo plusieurs fois. Ah si, Nicolas, plusieurs fois, on a parlé de toi ici.
Ah oui, c'est clair. J'ai des potes là-bas à Radio Vélo. Nicolas, tous les types qui me demandent de faire des imitations à chaque fois. Je connais pas tous les noms, tous les prénoms, mais puis on se côtoie aussi sur la Ronde de l'Isard, donc je les connais bien.
La Ronde de l'Isard que tu viens parfaitement de me vendre, te dire qu'on en reparlera en 2016, pas de souci. Pour l'instant, on parle de ton association et puis surtout du film que tu a sorti, qui est en train de sortir, qui s'appelle Rêve d'enfer, qui est un documentaire sur Paris-Roubaix Espoir qui a été tourné. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir à Bois-Colombes lors d'une retransmission avec la soirée qui s'était passée avec Direct Vélo. C'est sans voix off, c'est-à-dire que c'est totalement du son pur, avec quatre coureurs que vous nous présentez. Qu'est-ce qui s'est passé déjà à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vouliez montrer?
Alors vraiment, au départ, notre trame, c'était de montrer la course, vraiment, de montrer ça.
Je précise quand même qu'on ne la voit pas, la course, quasiment.
Et on en voit très peu, ouais. Et c'est parce qu'en fait, on s'est dit que, en faisant la sélection des coureurs, ou en faisant notre petit casting, qu'on avait des personnages super intéressants. Parce qu'on s'est dit, ah mais tiens, Dylan Kowalski, ouais mais imagine, on va le faire avec sa grand-mère, carrément, dans le Nord, pour voir... On va forcément ressortir des choses de ça. Nathan aussi chez lui. On est chez lui, on est dans sa chambre, dans son intimité.
Justement, rappelez-nous quels sont les quatre protagonistes.
Oui, c'est vrai. Nathan Van Hooy donc le Belge, le favori. Dylan Kowalski, le ch'ti, le gars du Nord. Jérémy Defay, le grimpeur du Sud-Est de la France. Et Tao Geoghegan-Hart, qui est le personnage un peu inclassable, déjà récupéré un petit peu par le système professionnel qu'on a suivi, parce que lui aussi, on trouvait que c'était vraiment un personnage intéressant. Et voilà, et en fait, au fil de nos discussions et tout, on s'est vraiment aperçu que ce qui était vraiment intéressant, bah, c'était les histoires. L'histoire de ces mecs-là, qui sont tout aussi habités que peut l'être un Tom Boonen, un Fabian Cancellara, tout aussi habité par rapport à cette course amateur.
Alors là, il y a un côté très précurseur quand même, parce que c'est prendre de l'avance finalement, de choisir quatre hommes, essayer de raconter des anecdotes. C'est un peu ce qui manque peut-être sur les coureurs d'aujourd'hui, de ne pas les avoir vus forcément en vidéo grandir, en tout cas dans l'intimité comme ça avant.
Quelqu'un qui, je ne sais pas, veut s'intéresser au vélo, il faut qu'il se déplace sur des courses amateurs comme Paris-Roubaix Espoir pour voir ce que c'est, pour voir l'envers du décor, pour voir ce qui est un départ d'une course amateur aujourd'hui, ce qui est une arrivée d'une course, bah, voilà, comme la Ronde de l'Isard. Comment les mecs se changent au cul du camion, aller côtoyer ces mecs-là. Vraiment, mais il y a des histoires incroyables dans le cyclisme amateur.
Qu'est-ce qui t'a paru incroyable, justement, parmi ces quatre-là? Est-ce qu'il y a une anecdote que tu pourrais nous ressortir particulièrement?
Alors, c'est assez paradoxal, parce que moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est Tao, en fait. Et c'est pas moi qui l'ai filmé, c'est Laurent, Vincent et Pierre qui sont allés le voir à l'hôtel. Mais quand ils sont revenus du tournage, on en a discuté. Ils me disent, ouais, on a vraiment pas eu grand chose. On n'a pas pu filmer ci, on n'a pas pu filmer ça, machin. Et puis en dérochant, on s'est aperçu que justement, c'était ça qui était intéressant, c'était de voir que on pouvait rien filmer. Et donc on a joué là-dessus. On a joué sur le fait que, bah, regardez, ce mec-là, il est déjà récupéré. On n'a pas le droit de filmer son vélo, on n'a pas le droit de filmer son. Il nous a dit, oui, si vous pouvez filmer les roues, si vous voulez. Bon, et puis bah voilà, là aussi paradoxalement, ce mec-là, quand on l'a posé en interview, on sent qu'il est déjà très professionnel. En plus, il a une voix qui passe bien, il a la gueule, quoi, de l'anglais, du type, enfin auquel moi je me suis attaché. Et finalement, dans l'interview, il dit des choses quand même, je trouve, super intéressantes, hyper, enfin, par rapport à sa famille, par rapport à son rapport à la course. C'est pas, là, on parle pas de son rapport à la course au Tour de France. On parle pas de son rapport à la course Paris-Roubaix Pro. Là, il est déjà happé par la course amateur. Il est déjà happé par ce truc-là parce que quand il était junior, il a chuté. Il a eu une cicatrice énorme dans le dos. Ça l'a marqué. Il est revenu, il veut revenir sur cette course. Il veut un jour la gagner.
Une petite partie promotion. Où est-ce qu'on peut le retrouver, ça, ce film, ce documentaire, bientôt?
Alors là, je suis en train d'essayer de le faire tourner dans des cinémas parce que là aussi, c'est une démarche qui me semble intéressante. C'est de faire déplacer les gens dans des cinémas et d'organiser des soirées autour du vélo, des soirées débat pour en parler derrière. On a Dijon, qui est quasiment... Enfin ouais, ce sera le 22 janvier, je peux le dire en exclu. Il va y avoir Fréjus aussi, parce qu'il y a Jérémy Defay qui habite là-bas. Et moi, j'ai vécu mon adolescence, donc là aussi, ça va être sympa pour moi. Donc Fréjus, ce sera aux alentours du 10 décembre. Et puis deux diffusions dans le nord de la France, Cambrai et Roubaix, dont une à Roubaix normalement prévue pour le 16 décembre, mercredi 16 décembre, avec Daniel Verbraquel, le président du Vélo Club de Roubaix. Il y a pas mal de surprises.
C'est un véritable investissement sur l'avenir. Je suis sûre que tous nos auditeurs auront compris la passion qu'il y avait dans ta voix, Nicolas. C'est sûr. Merci beaucoup. On va rappeler le site quand même internet de La Bordure.
Oui, alors c'est le www.labordure.fr. Il y a Allégeant d'ailleurs qui est en ligne maintenant et la page Facebook aussi. Voilà.
Bon, merci beaucoup Nicolas.
Merci beaucoup Claire.
Allez Jean, tu te souviens de...
Ah, je me souviens, oui.
Bon, c'était voilà le magnéto avec Claire qui a interviewé Claire Bricon, qui a interviewé Nicolas Lotte pour le coin de Radio Vélo.
Ouais, très sympa Nicolas Lotte. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois sur d'autres courses style le Dauphiné. C'est vrai, un véritable passionné de vélo. Puis ouais, ce qu'il fait à côté avec la bordure, je trouve ça super sympa. Après, ça n'a pas été évident, mais ça a l'air très intéressant son film Rêve d'enfer. C'est vrai qu'on voit beaucoup le Paris-Roubaix des professionnels. On connaît un peu moins cette version des espoirs qui peut être très intéressante. Donc des jeunes qui évolueront peut-être ou pas au niveau professionnel plus tard. Donc je trouve ça très sympa.
Ouais, faudra d'ailleurs regarder si le podium de Paris-Roubaix espoir se retrouve ensuite chez les pros et ensuite les résultats qu'ils font, puisque je me souviens. Alors je sais pas s'il avait fait Paris-Roubaix espoir, mais par exemple Anton Boudin était arrivé chez les pros et immédiatement il avait marché. Et ça peut être très intéressant de voir Paris-Roubaix espoir, donc pour des gars qui sont à la limite des pros, de les voir avant justement qu'ils soient formatés dans le monde pro.
Et nous refermons donc ce chapitre avec l'interview de Nicolas Lotte par Claire Bricogne et nous accueillons notre second invité de la soirée, c'est Steve Chenel. Steve, est-ce que tu nous entends ?
Oui, je vous entends très bien.
Bienvenue en direct dans Radio Vélo. Julien, Steve, qu'on avait envie d'avoir pour une initiative peu ordinaire.
Oui, je pense qu'il est encore des starting blocks parce qu'il a organisé aujourd'hui son fameux cyclocross à Saint-Étienne-lès-Ormiron. Ça va, tout est fini, tout est rangé ?
Ouais, mais moi ça va, j'ai le bon rôle, moi je pédale et je suis juste là en amont. Hein. Les bénévoles ont fini, eux, il y a une demi-heure, ils ont pu boire un petit coup. Mais non, ça s'est très 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 bien passé comme d'habitude et c'était une super journée. Donc on est toujours dans les starting blocks, je vais pouvoir enfin me poser.
C'était sur le site où avait lieu les championnats de France des écoles de vélo, pareil ?
Oui, voilà, c'était sur le même site, on avait également organisé le challenge national de cyclocross il y a 3 ans et c'est exactement le même site. On a un petit lieu assez sympathique où on peut pratiquer le cyclocross, donc non c'était une réussite comme d'habitude avec notre club et notre ancien club, j'ai envie de dire.
Alors Steve, ça fait quelques semaines déjà dans Radio Vélo où on met le cyclocross à l'honneur avec la reprise de la saison et puis on a mis à l'avant toutes sortes d'initiatives, notamment un site spécialisé qui a été lancé et dont on a parlé la semaine dernière. Et donc on avait envie de parler avec toi de cette équipe 100% cyclocross que tu as bâtie. C'est un projet qui date de il y a longtemps ?
Oui, c'est un projet qui date de il y a longtemps, mais entre les projets, ce qui serait bien de faire, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on devrait faire, ça reste toujours, j'ai envie de dire, dans un coin de la tête ou dans un coin de bureau. Et après, prendre l'initiative de lancer le truc, c'est toujours encore autre chose. Et c'est vrai que cette année, ça s'est mal passé avec Cofidis. Mon épouse avait envie de stopper sa carrière parce que ça fait 3 ans qu'elle était laissée pour compte, j'ai envie de dire, un petit peu, de son côté, puisqu'on aide de moins en moins les élites femmes. Et on s'est dit, mais pourquoi pas créer un team depuis le temps qu'on a envie. J'ai dit, vas-y, maintenant qu'on l'avait envie de le faire, j'ai dit, maintenant, il faut avancer, il faut y aller, c'est pas le tout de rêver. Et en fait, on a créé ce team assez rapidement, j'ai envie de dire. On avait des partenaires qui nous ont suivis très rapidement, les sponsors aussi. Et c'est vrai que c'est une idée, j'ai envie de dire, que tout le monde a peut-être envie de faire, mais que personne n'a vraiment osé. Et aujourd'hui, comme je le dis à tout le monde, je souhaite que l'année prochaine, il y ait 3 ou 4 équipes comme la nôtre, et dans 2 ans, 8, et dans 4 ans, 12, pourquoi pas.
Julien, j'imagine, toi, tu peux être que satisfait d'un tas de ça.
Bien sûr, en tant que cyclocrossman, on arrive tous de monter une team comme ça, à l'image d'une équipe belge, où voilà, c'est consacré spécifiquement au cyclocross, avec les moyens qu'il faut, parce qu'on sait que voilà, c'est des déplacements partout. Là, il se trouve, lui, dans un secteur un petit peu où il est pas loin de la Belgique, la France, donc c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que c'est une très très... Moi, j'ai appris ça, j'étais super content, parce que j'ai toujours rêvé d'être dans une team de cyclocross. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. J'espère que ça va bien marcher.
En tout cas, c'est sûr, nous, on avait toujours envie de monter ça, parce que c'est vrai que dans l'est de la France, contrairement au sud-ouest ou au sud-est, c'est vrai que on a vraiment une entité forte de cyclocross, que ce soit avec Dominique Arnoux, Mangin, tout le monde dans l'est connaît le cyclocross. Aujourd'hui, on était 120 dans la course élite, c'était assez énorme. Wow. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de gamins qui aiment cette discipline, mais c'est vrai que arrivé à un certain âge, 18, 19, 20 ans, on se rend compte qu'on n'est plus, au niveau international comme on devrait l'être. Je prends l'exemple d'un Clément Venturini qui, pour moi, stagne, mais il stagne parce qu'il fait de la route en parallèle. Et aujourd'hui, on voit, ça devient une vraie spécialité. Et on voit plus des coureurs de 400 mètres faire du 800 mètres en athlétisme, et on voit plus des coureurs de la route faire du cyclocross. Les derniers en date, c'était Stibar et Lars Boom, et ils ne font plus que de la route. Donc on souhaite vraiment spécialiser. On a envie qu'on arrête de nous dire les Belges c'est les meilleurs, les Belges ils ont les moyens. Mais bordel, au lieu de les jalouser, faisons comme eux. Et on verra ce que ça donne.
Est-ce que ça a été facile, Steve, de rassembler des partenaires, des sponsors, parce qu'on sait qu'il faut quand même de l'argent, il faut des moyens, il faut des véhicules, etc. Est-ce que ça a vraiment été facile autour de toi de trouver de l'appui?
Sincèrement, au jour d'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire non. Parce que quand on a un projet qui est bien ficelé, quand on parle avec son cœur, quand on parle avec ses tripes, les premières institutions que j'ai été voir, c'était mon département et ma région. Je leur ai présenté le projet, ils étaient emballés et on était loin encore d'avoir bouclé le budget. Mais quand j'ai parlé à droite, à gauche de ce que j'allais faire, ça a été, essaye d'appeler lui, fais-moi un dossier pour lui. Et au jour d'aujourd'hui, notre budget est clos. Au niveau du matériel, on avait des sponsors qui nous suivaient depuis le début avec Lucie, surtout elle, parce que elle se débrouillait de son côté. Eux, ils nous ont suivis également, parce qu'ils savent comment on fonctionne, ils savent la mentalité qu'on a. Et c'est vrai qu'on a eu très 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 peu de refus. On en a eu, mais très très peu par rapport à ce qu'on aurait pu penser. Le plus pénible, j'ai envie de dire, ça a été encore une fois toutes les démarches administratives, tout ce qu'il a fallu faire au niveau fédéral, régional, parce que nous, on voulait monter un team, comme ça se fait en VTT, mais il y a un vide juridique à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on a créé un club, en fait. Ce qu'on souhaitait, c'était faire un team cyclocross, que les coureurs fassent ce qu'ils veulent sur la route avec leur petit club, ou fassent du VTT dans leur team VTT s'ils ont envie, mais que nous, on les aide exclusivement en cyclocross. Et c'est notre projet, notre concept, et c'est sur lequel créneau je vais me battre au mois de mars, quand la saison sera finie, pour que ce vide juridique n'existe plus au niveau fédéral et même au niveau international.
D'accord. Est-ce que tu penses que la difficulté de chercher des partenaires, c'est lié, comme on en parlait déjà la dernière fois avec Francis Mouret et d'autres personnes, lié à ce manque de médiatisation de cette discipline qui est magnifique, qui est spectaculaire?
Bien sûr. De toute façon, faut pas se voiler. Chaque personne, chaque sponsor qui verse 1 euro espère en avoir 3 en retombée au niveau publicitaire. Donc effectivement, plus il y aura de médiatisation, plus les sponsors sont intéressés par cette discipline. Mais moi, je prends un petit peu le problème à l'envers. J'ai envie de dire, au lieu de critiquer les médias et de critiquer les sponsors, nous, de notre côté, invitons-les. Faisons les démarches nécessaires pour organiser des circuits peut-être sans eux et juste leur faire découvrir la discipline. Au jour d'aujourd'hui, on avait à Saint-Etienne quasiment 3000 spectateurs. Moi, de mon côté, j'ai invité tous mes partenaires, même ceux qui n'y connaissent rien, pour leur montrer qu'est-ce que c'est le cyclocross. Et ce qui en ressort, effectivement, c'est des sourires, c'est un spectacle, j'ai envie de dire, gratuit, à ciel ouvert, qui démontre que la discipline est loin d'être morte. Et c'est clair que si on avait, comme en Belgique, des télévisions qui se déplaceraient, peut-être des journaux spécialisés, bon, la France Cycliste jouait le jeu, mais il y en a de moins en moins, on obtiendrait, j'ai envie de dire, beaucoup plus de retours et on aurait plus facile, effectivement, derrière, à aller trouver des partenaires. Ça, c'est clair.
Bon, mais il va falloir se mettre à commenter des cyclocross du côté de Radio Vélo. Steve, un mot également sur la nouvelle qu'on a appris il y a très peu de temps. John Gadré qui se joint également au projet.
Oui. Bah John, il était en fin de carrière. Il est en fin de carrière sur la route. Il est arrivé, j'ai envie de dire, au bout de l'histoire. Hein. Il en a un petit peu marre de partir en novembre, en décembre, en janvier en stage, de partir faire un grand tour. Et puis c'est surtout cette logique d'entreprise qui commence de plus en plus, et je le répète tout le temps, à graviter dans le sport qui nous agace. Voilà, on considère vraiment plus le sportif comme un être humain. On le considère vraiment comme un... ni plus ni moins comme un pion, hein, comme un objet pub. Et John, voilà, même il aurait eu même une autre proposition, pas sûr qu'il aurait reparti à cause de cette mentalité, du moins en France, j'ai envie de dire. Et quand je lui ai dit, écoute John, pourquoi tu viendrais pas chez nous, hein, j'y attends à Besançon, ça pourrait faire un sacré coup, en tout cas ça me donnerait un gros coup de main, et toi qui as toujours aimé la discipline, ça donnerait un gros coup de fouet à la discipline. Et il a pas réfléchi, en fait. Il a réfléchi, c'est ce qu'il dit, hein, mais il a réfléchi 24 heures et le lendemain il m'a dit, ok, on y va, appelle tes partenaires. Et c'est vrai que derrière les partenaires, quand je leur ai dit que John Gadré souhaitait venir avec nous, j'ai encore eu aucun mal, j'ai envie de dire, à expliquer que John, il était là pour relancer la discipline, encore une fois, pour inciter les jeunes, pour leur donner des conseils, pour ne pas lâcher le morceau et pour pas qu'on s'enfonce, quoi, ni plus ni moins.
Benjamin.
Oui, bonsoir Steve. C'était pour savoir, vu que tu t'occupes un peu de tout pour ton club, si ça te pompait pas un peu d'énergie, vu que tu cours également.
C'est une super et une excellente question, parce que tout le monde me pose la question. Et au jour d'aujourd'hui, on dit que c'est mon club, c'est mon équipe. Mais ce n'est pas mon club ni mon équipe. On est les investigateurs avec Lucie. C'est vrai qu'on a fait les démarches nécessaires. Mais on n'est pas président du club. Notre président, c'est Christophe Thomas, qui était le président de mon ancien club, j'ai envie de dire, qui prend les rênes. On a un comptable, un juriste. On essaye de s'entourer au maximum de personnes, justement, parce que la double casquette, elle est impossible à gérer. J'ai essayé de la gérer fin septembre, début octobre, et ça s'est vu à Valkenburg, puisque sur le jus c'est possible, mais à Valkenburg j'ai pété un plomb dans la tête, je suis tombé parce que je pensais au lendemain, au coup de fil à passer ou au mail à répondre. C'est extrêmement difficile. J'ai Geoffroy Lecâtre qui me donne un coup de main énorme d'un point de vue communication avec les vêtements, les designs, etc. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai la vraie casquette de coureur. Alors, je réponds encore à la presse, j'explique exactement c'est quoi le projet. Mais voilà, avec Lucie, notre casquette de coureur, elle est bien ancrée sur la tête. Et j'ai envie de dire, on reprendra notre casquette de manager ou de fervent défenseur du cyclocross une fois que la saison sera terminée. Ça, c'est sûr.
Te concernant, j'écoutais l'interview que tu faisais après ces champions d'Europe, où tu disais... plus te concentrer, plus écouter les conseils qu'on pouvait te donner par rapport à ce que tu faisais avant.
Exactement, voilà, quand on est dans le milieu professionnel de la route, on en devient formaté, hein, on devient un petit peu, j'ai envie de dire, dans une relation exécutant-exécuté. On dit quelque chose, on obéit bêtement, mais à un moment donné, moi qui suis père de deux enfants, je ne pouvais pas obéir de la même manière que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui fait que ça, qui est chez papa-maman. Et dans ce milieu professionnel de la route, il y a peu de place pour l'humain. Et c'est vrai que j'étais dans une certaine zone de confort, je faisais ce que j'avais envie, et j'étais un petit peu anti-conventionnel, quoi, tout simplement. Et depuis 3 semaines, 1 mois, là, j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi, comme je l'ai dit il y a exactement 2 minutes, j'ai plus à réfléchir le matin, à me dire qu'est-ce que je dois faire. Voilà, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes plans d'entraînement, que je vois tous les jours quasiment, et j'ai envie de dire, les premiers résultats ont été un petit peu payants au championnat d'Europe, mais c'est que le début. Et l'objectif, c'est d'être uniquement bien au mois de janvier, de se faire plaisir et d'optimiser le potentiel que je pense avoir encore en cyclocross.
Ouais, Max,
Oui, mais après il dit qu'il a casqué de coureur, mais je pense que pour en arriver là, il y a quand même eu beaucoup de boulot derrière, parce que quand tu démarres, toi, à lancer le projet, le team, et que derrière, ben, t'as envie quand même d'être coureur, et c'est bien ce qui explique, parce que moi je le connais ça aussi, le fait que tu peux pas tout gérer, du coup t'es pas performant. Pour réussir maintenant à redevenir coureur, il y a quand même, je pense, un sacré boulot pour s'entourer des bonnes personnes, du bon projet, donc ça s'entend dans la voix qu'il y a beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation, et je pense qu'il y a pas de souci de ce côté-là, ça devrait bien avancer et bien rouler tout ça.
Guillaume.
Oui, bonsoir. Bonsoir Steve. Moi j'avais une question, c'était comment ça s'est passé la rencontre avec Geoffroy Lecâtre, parce que c'est vrai qu'on trouver des sponsors déjà pour une équipe que ce soit professionnelle ou non, c'est pas évident, mais monter un team cyclocross, je suppose que ça va être encore plus difficile. Comment ça s'est passé donc la rencontre avec Geoffroy?
Mais Geoffroy, c'est une longue histoire et je pourrais en parler pendant des heures parce que même avec nos partenaires, c'est très long. Geoffroy Lecâtre, j'étais au Pôle Espoir de Nancy avec lui en 2002. Il venait de Montpellier, il est monté au Krebs. On a toujours eu des liens assez forts parce que voilà, on était amateurs les deux. Il est passé pro créer école et on a toujours été, j'ai envie de dire, en contact parce que c'est quelqu'un qui a un petit peu la même vision que moi. C'est quelqu'un de passionné qui est passionné de vélo, de design, etc. Et il y a 4 ans, quand il a monté sa boîte G4, c'est le premier qui a fait les designs de maillots de champion de France de Lucie, alors qu'il venait seulement de monter sa société. Et aujourd'hui, on travaille avec des gens qui ont toujours été là. On a refusé même une offre, parce qu'on s'en cache pas, on a refusé une offre d'un gros sponsor, d'un gros partenaire cycle, mais qui voulait l'exclusivité. Et aujourd'hui, on a refusé parce que dans 2 ans, si ce partenaire cycle nous lâche, on va retourner avec notre petit dossier et puis on ira retaper les petits, alors qu'il faut mieux voir petit. Donc Joe, aujourd'hui, c'est quelqu'un de petit, hein, qui lance encore sa société, qui nous aide avec ses moyens, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup moins de moyens qu'un, par exemple, que Decathlon ou que Nike, etc. Donc nous, on travaille avec lui, c'est un passionné, et on se fait en contact très régulièrement depuis 2002, en fait. Donc ça a été facile, encore une fois, de trouver quelqu'un pour nous faire nos vêtements, pour les designer, sans problème.
Julien, on va remercier Steve.
Ah ben ouais, je l'entends dans sa voix, il est toujours aussi. Moi je l'ai vu sur ces 4-5 jours d'organisation d'école de l'eau. Alors comme il dit, il a une superbe équipe autour de lui, hein, et moi je l'ai vu manœuvrer. Il a le dynamisme qu'il a, il le retransmet à tous ses bénévoles, c'est hallucinant. Donc je peux que lui faire confiance que son projet voilà va marcher, parce que rien qu'en sa voix et à son dynamisme, et on l'espère, parce que ça va faire vraiment du bien à cette discipline là. Et j'espère que beaucoup de personnes vont en prendre un petit peu de la graine et essayer de faire pareil, comme il disait, qu'il y en ait 2, 3, 4, 5, et que cette discipline qui est merveilleuse continue à perdurer, quoi.
Ben exactement, nous l'objectif c'est pas d'être les seuls, les uniques, les meilleurs, et de recruter les meilleurs pour tout péter, loin de là. Nous ce qu'on veut c'est aider un maximum de monde. Depuis que le 17 août on a fait la conférence de presse sur l'équipe, on a reçu une vingtaine de CV et j'ai pris mon temps pour répondre à la vingtaine de CV, leur expliquer que c'est pas possible, je ne peux pas donner aux 20 personnes 3 vélos, 3 casques, 3 paires de chaussures, c'est impossible. Mais par contre, encore une fois, et contrairement à ce que j'ai connu pendant ces 9 années chez les professionnels, j'ai donné une réponse. J'ai pas dit peut-être, on verra bien, c'est peut-être vrai, j'en sais rien. Voilà, c'était non. Par contre, l'année prochaine, retente ta chance et on verra. Et ce que je souhaite, c'est que toutes ces personnes-là qui sont motivées par le cyclocross puissent avoir des réponses, avoir des clubs, avoir des teams qui se montent pour pouvoir les aider, mais encore une fois, pour se faire plaisir, pour obtenir des résultats et puis, pourquoi pas aller chercher des titres mondiaux. En tout cas, nous, l'année prochaine, là on est 3 coureurs, l'année prochaine c'est clair et net que on va se battre pour doubler notre budget afin d'avoir 6 ou 7 coureurs avec nous, et ce sera pas 6 ou 7 élites. On prendra un junior, un espoir et pourquoi pas un cadet, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'on est cadet et qu'on a moins de visibilité qu'on doit moins avoir et qu'on doit moins aider, tout simplement.
Merci Steve Chenel d'être passé dans Radio Vélo. Le plaisir était partagé.
Merci.
Et on vous dit à très bientôt dans Radio Vélo.
Et bonne chance pour le reste des courses.
Ben merci beaucoup. La prochaine course, c'est Coxyde le 22 novembre. Donc ça va, j'ai encore 11 jours à profiter un petit peu de la famille, de ma femme, de bien m'entraîner. Et puis, la saison passe vite. Hein, la saison de cyclocross, c'est quand même relativement court. C'est jusque mi-février. Donc faut s'éclater, profiter. Puis en plus, on a la super météo avec nous en ce moment. Donc c'est plus qu'agréable. Hein. J'aurais peut-être moins de discours et je serais peut-être moins jovial quand il y aura la neige par chez moi.
Bon, on retentera, on rappellera pour voir si c'est le cas.
Pas de souci, avec plaisir.
Merci Steve, à bientôt dans Radio Vélo.
Bonne soirée, au revoir, merci.
Bonne soirée. Et voilà, donc c'était Steve Chenel d'un Radio Vélo, une pêche d'enfer. D'ailleurs, on a dépassé l'horaire, on va se faire grotter. Ça va que c'est le 11 novembre que tout le monde est à la maison.
Il en faut plus, des gars comme ça, qui n'ont même pas terminé leur carrière. Ils sont déjà. Voilà, il faut faire bouger les choses.
Moi, je l'ai vu rien qu'aux écoles de vélo, tu verrais, mais il transpirait dans la longueur de journée. C'est impressionnant.
Il a rebondi en choisissant d'utiliser sa passion.
Après, il sera critiqué par d'autres, mais qui fait rien.
Mais critiqué, tous les critiques, à ce moment donné, tu restes en ton canapé, tu n'auras pas critiqué.
Il se régale et ça suffit à son bonheur, c'est ce qu'on lui souhaite.
Que son projet marche, que d'autres personnes en prennent un petit peu de la veine. Voilà, exactement. C'est pas la peine de se cracher
dans d'autres disciplines, VTT, piste, tout ça. On peut faire pareil en piste.
Donc la prochaine, tu peux envoyer ton CV, Julien. Il a dit, on peut
revoir. Il est chaud, c'est bon, on va créer un peu.
On s'est régalé, messieurs, ce soir. Super émission.
On a bien fait faire le pont là aujourd'hui, hein. Bon, le podcast est la fin de soirée, bonne soirée, à mercredi prochain à Radio Vélo.
Allez, ciao tout le monde,
au revoir.